Voilà, donc la fête de la science, c'est en ce moment. Profitez-en, il y a beaucoup d'ouverture au public et puis aussi de littérature ou de propositions pour découvrir la science. C'est l'occasion ou jamais. Donc la troisième émission de la semaine prochaine, toujours 17h-18h, j'ai deux sujets au moins que je vous présenterai, dont un sur l'Université d'Artois et son labo de recherche consacré au sport. Et puis un autre sujet sur les sportifs de haut niveau. Ben oui, il ne vous a pas échappé que l'année prochaine, il y a les JO et que les sportifs de haut niveau sont particulièrement chouchoutés, eux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la fête de la science vue par son ambassadrice Hauts-de-France qui s'appelle Laura Wallard. Bonjour Laura Wallard.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir.
Merci beaucoup. C'est un honneur également de pouvoir participer à cette fonction d'ambassadrice et de pouvoir communiquer notamment à la radio. Donc merci beaucoup.
Donc chaque année, si j'ai bien compris, les ambassadeurs ou ambassadrices changent ?
Effectivement, j'ai l'honneur d'être une fois élue ambassadrice.
Et à chaque fois, c'est un thème nouveau aussi. Donc cette année, c'est le sport ?
C'est le sport et la science. Le sport qui va du domaine de l'activité physique, de la performance motrice, à la performance sportive, comme vous évoquiez tout à l'heure avec les sportifs de haut niveau, effectivement.
Alors justement, par rapport au sport, vous avez, en tant que chercheuse, un angle particulier qui vous tient à cœur. Vous allez l'exposer, bien sûr, aujourd'hui, en plus de ce que vous voudrez bien présenter de cette fête.
Tout à fait. Je travaille notamment sur la mise en place de programmes, ou en tout cas d'optimisation de programmes, dans la prise en charge de personnes atteintes de paralysie cérébrale ou de personnes atteintes d'arthrose, chose qu'on va vivre malheureusement vu que c'est le vieillissement normal des articulations. Et l'idée, c'est d'optimiser à travers notamment les nouvelles technologies comme les applications, les montres, finalement tout ce qui est l'ordre du quotidien que nous avons majoritairement entre les mains, et d'aider les patients avant chirurgie ou après chirurgie à retrouver une mobilité fonctionnelle et donc finalement retrouver une qualité de vie qui est importante, surtout maintenant.
Donc c'est vrai que quand vous dites « surtout maintenant », ça veut dire qu'avant, on considérait que la maladie, la vieillesse, ça faisait partie des choses normales et qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose. Et maintenant, non seulement on s'en préoccupe, mais en plus on s'en occupe.
Effectivement, on s'en occupe. Et c'est là que la science va apporter la preuve. Et on a besoin de tester certaines choses avec du public pour pouvoir dire effectivement ceci fonctionne plus que cela. Et donc, la science va nous être très, très utile, nous, en tant que chercheurs, pour apporter la preuve et donc présenter aux patients en disant ben voilà, tel type de programme, tel type d'activité vous sera beaucoup plus utile, scientifiquement ça a été montré, qu'une autre activité. Je pense ici par exemple à la marche. Souvent on parle de course à pied. Je conseille plus de faire une marche un peu plus dynamique, une marche sportive ou de la marche nordique. C'est beaucoup plus efficace et ça a été montré scientifiquement que c'était beaucoup plus efficace.
Donc dans ces domaines de recherche, qui est-ce qui définit les priorités, on va dire l'État ou les personnes qui disent « nous, on a besoin de trouver des solutions à nos problèmes ».
Ah, c'est une très très bonne question. Ça dépend, c'est parce que l'État finance via des appels à projets des projets scientifiques. Ça peut être, par exemple, je pense à notamment l'Agence nationale de recherche, l'ANR, qui finance chaque année des projets et ça en fonction des thématiques. Par exemple, là, avec les Jeux Olympiques en 2024, les thématiques sont très orientées vers le sport, mais plutôt sur la performance sportive, moins sur le côté prise en charge, mais il y a toujours un côté santé. Parce que la santé est prioritaire, surtout qu'on est tous amenés à vieillir, bien ou mal, mais voilà. Et on est aussi de plus en plus, en plus ça a été évoqué par le président de la République, cause nationale qui est la sédentarité et donc l'activité physique. À ce moment-là, bah, en termes d'appel à projet, il y a de plus en plus d'appels à projet financés sur les bienfaits de l'activité physique. Donc ça c'est un pan. Et puis après aussi, il y a la conviction du chercheur et ce qu'il a envie de faire. Moi, par exemple, je suis de formation sciences et techniques d'activité physique et sportive. Et donc l'activité physique et sportive, Ça me tient à cœur et donc j'oriente mes recherches vers ce type de thématique et toujours en lien aussi avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc la HAS ou l'OMS qu'on a beaucoup entendu avec la Covid notamment.
C'est vrai qu'il y a aussi cette tendance à faire travailler les personnes de plus en plus longtemps avec la retraite, etc. Donc aussi de maintenir les gens en bonne santé et d'un point de vue de la rentabilité, j'aime pas ça, hein, mais je le dis quand même, hein, de mettre les gens en condition de travailler. Alors, c'est un peu cruel quand même, cette vision pragmatique de l'économie.
C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est une vision, effectivement. Je suis entièrement d'accord sur le principe de il faut garder les personnes les plus actives possibles pour qu'elles puissent effectivement être rentables. Donc ça, c'est la notion de profit. Et puis après, je pense que là, maintenant, on commence à avoir de plus en plus la volonté aussi des personnes qui partent en retraite d'être quand même toujours actifs. Et on parle de retraite sportive, retraite active. Et donc, il y a aussi cette volonté-là de dire bah, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous êtes plus en mouvement, que vous avez plus besoin d'être actif socialement. Et je trouve qu'il y a aussi un peu ce côté-là du côté des fédérations, par exemple. Je travaille avec une collègue sur la Fédération française retraite sportive, où on est sur des seniors qui sont soit en début de retraite, soit qui ont plus de 70 ans, 80 ans, et qui pratiquent, et qui parfois pratiquent mieux que nous, et qui sont actifs. Et donc je trouve que c'est bien aussi de montrer aussi l'autre côté. Donc il y a effectivement la volonté de nous rendre et de nous garder toujours dynamiques.
Alors le thème étant le sport cette année, hein, pour la fête de la science, certains sports sont plus ou moins populaires et plus ou moins, comment on peut dire ça, financés notamment par les sponsors, mis en valeur, passés à la télé.
Oui, bah par exemple, après ça c'est plutôt un retour personnel, le fait de voir McDo ou Coca-Cola affichés en lien avec le sport, moi ça me fait mal au cœur parce que bah, quand on sait que c'est de la malbouffe, de la consommation plus que ultra transformée et qu'on est plutôt sur le sport, le bien-être et la santé et surtout alimentaire et qu'on sait qu'à quel point, et en tout cas c'est sur quoi je travaille aussi en neurosciences, l'effet de l'alimentation et de la malbouffe sur notre cerveau. Et c'est vrai que parfois, certains sponsors ne sont pas forcément très logiques par rapport à la pratique qui est proposée. Je pense là notamment avec ce que je suis très fan de rugby. Et donc, on voit ce qui est affiché. Coca-Cola, ça, c'est un peu problématique, en tout cas, à mon sens. Ce n'est pas en accord.
Alors, c'est vrai que la publicité pour des marques, alors on en a cité quelques-unes, on pourrait en mettre plein d'autres, hein, bien sûr. Il n'est pas question de faire ni de la publicité, ni de la contre-publicité, mais juste d'informer sur l'impact de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, aussi, en plus de l'activité physique sur
tout
la santé. Je pense que tout ça, c'est lié. Quand on voit l'hyperdiabète, par exemple, il y a des répercussions sur la santé. Et après, il faut trouver des traitements et puis accompagner les personnes qui en souffrent très fortement.
En effet. Et là, ça fait sens avec la notion d'exposome. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ce terme. Exposome, c'est finalement, c'est tout ce qui est... Somme, c'est le corps. Et expose, c'est tout ce qui est l'exposition. Donc, ça va de l'alimentation à ce qu'on fait du quotidien. C'est-à-dire que si on ne stimule pas notre cerveau, je ne dis pas que le cerveau est un muscle, attention, hein, mais il faut l'entraîner, et la mémoire et tout ça. Donc, c'est aussi, si on s'entraîne, on retarde aussi les éventuels troubles de déclin cognitif. Et donc, ça, c'est important, effectivement. Et c'est avec la fête de la science, c'est aussi ça, un peu lancer d'alerte, prévenir que faites attention, il faut faire attention. Ce que nous sommes aujourd'hui, ben, c'est ce que nous serons plus tard, quand on sera âgé, et la consommation que nous avons aujourd'hui, alimentaire ou des boissons, ou même de ce que nous vivons en termes d'activité cognitive, bah ça va être nous plus tard à la retraite, ce qu'on sera.
Alors, on parlait il y a un moment, ça existe encore, hein, de sports cérébraux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout un domaine de publication, notamment, on peut faire des jeux, etc. On tourne quand même un peu en rond dans ces activités-là. C'est pas parce qu'il faut faire travailler le cerveau que ça ouvre l'esprit.
Ah oui, bien sûr, ça, je suis d'accord. Alors là, je vais prendre la casquette de enseignante-chercheur, mais plutôt le côté enseignement où j'enseigne tout ce qui est... en tout cas, je propose aux étudiants des notions de neurosciences et de contrôle moteur. Et par nature, le mouvement en tant que tel sollicite les aires corticales, notamment les aires corticales prémotrices et motrices primaires, je généralise. Hein. Et donc, il y a, quand on parle d'activité motrice, on parle d'activité cognitivo-motrice. Et donc, quoi qu'il arrive, même si on ne fait pas forcément des exercices de lecture, de mémorisation, le fait d'être en mouvement nous permet de solliciter notre cerveau. Et ça, c'est important, en plus du fait qu'il y a un petit plaisir qui s'appelle la dopamine et qui nous permet de prendre du plaisir dans l'activité. Alors, bien sûr, il ne faut pas partir vers l'addiction, notamment la bigorexie, qu'on voit de plus en plus, hein, malheureusement, avec le fameux l'image du corps, la transformation du corps. Et ça fait sens avec ce qui va se passer en termes de recherche là, à Boulogne. Il y a une exposition sur la transformation du corps en mouvement depuis des siècles, et notamment la bigorexie ou l'anorexie dans le sport. On en parle très peu, mais par exemple le judo, la boxe, où on est très en lien avec les catégories de poids, bah, il y a des choses qui se font en termes alimentaires où le sportif, pendant 24 heures ou 72 heures, il ne boit plus, il ne mange plus pour pouvoir être sur la balance, sur le poids qui était indiqué pour pouvoir boxer ou pour pouvoir jouer, pour pouvoir pratiquer. Donc ça, c'est les extrêmes.
Alors, au-delà du poids, on voit depuis un certain temps des sportifs qui s'écroulent sur les terrains. D'un seul coup, paf, allez, rupture d'anévrisme, ou je ne sais pas, enfin, ils meurent sur place. C'est assez récent, ou alors on n'en parle pas depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une cause scientifique à ça, logique ?
Ah, alors, je vais peut-être faire un biais cognitif parce que ce n'est pas du tout mathématique. En tout cas, je ne suis pas chercheur dans tout ce qui est performance sportive, mais quand on parle de sportif de haut niveau, on parle aussi de surcharge d'entraînement, donc la fatigue. Après, c'est aussi l'envie de gagner, donc on va se dépasser, et parfois on n'a pas forcément tendance à écouter notre corps. Et c'est souvent quand il y a l'accident qu'on se rend compte que le corps était fatigué, était épuisé, c'est vraiment le terme. Après, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la notion d'exposome. Tout dépend aussi comment on voit la vie au-delà du sport en tant que tel. Et puis, après, je ne peux pas en dire plus que ça parce que c'est pas du tout, je ne travaille pas, malheureusement, pas sur ça.
Alors, à contrario, j'ai lu dans la presse pour préparer cette émission que les sportifs, grands sportifs, vivaient plus vieux que ceux qui ne faisaient pas de sport. Alors, entre ceux qui décèdent plus jeunes et ceux qui meurent plus vieux, ça fait une moyenne.
Alors oui, pour moi, je vois pratiquer du sport ou pratiquer une activité physique de l'ordre du quotidien ou de manière régulière, c'est bon pour la santé. En trop pratiquer, ça peut être mauvais. Voilà, c'est un juste milieu, il faut bien pratiquer avec des intensités modérées à légères, mais de l'ordre du régulier. Pour moi, c'est quelque chose, c'est comme un bon régime ou un rééquilibrage alimentaire. C'est pas sur 3 mois, c'est pas sur 6 mois, mais c'est sur des années. Et ça, par exemple, scientifiquement, ça a été prouvé. Il y avait notamment Michel Demurger qui a parlé de l'effet des régimes alimentaires sur les fameux yo-yo, parce que on demande à notre corps de retirer finalement un apport où il avait l'habitude, c'est toujours le côté habitude, et quand on lui demande d'un seul coup pendant 3 mois de se priver de sucre, de gras, mais de se priver de plaisir finalement, parce que il y a le côté aussi alimentaire plaisir avec modération, c'est ce qu'on dit souvent. En termes de longévité de ce rééquilibrage alimentaire, la personne cognitivement craque, et quand elle craque, elle reprend tout. Voilà. Et donc, c'est sur du long terme qu'il faut. Et c'est pareil pour le sport.
Alors, je voudrais mentionner un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Club Zéro. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ah non, non, pas du tout.
Il faut absolument voir ce film.
D'accord.
Mais donc là, c'est pour le coup quelqu'un qui manipule des jeunes, donc des lycéens pour résumer, et qui les amène à imaginer que ne plus se nourrir, c'est la solution pour se libérer, pour passer des caps. Donc c'est vraiment de la manipulation mentale.
Hein. Oui.
Et tout le système des sectes fonctionne un peu comme ça aussi. Donc voilà, quand on est dans un environnement sportif contrôlé, il y a un minimum de déontologie, de pratiques certifiées d'une certaine manière. Quand on se laisse intégrer à soit des sectes, soit des personnes qui ont une vision un peu possessive de l'individu qu'elle a en face ou qu'elle prétend aider, il faut bien réfléchir.
C'est vrai. Et alors, c'est là où je peux rebondir, c'est là que le but, notamment de la fête de la science, c'est de vulgariser et surtout de montrer au public, au grand public, que ce soit les enfants ou les adultes ou les personnes vieillissantes, c'est que la science peut aider. En tout cas, ça peut nous donner des pistes de réflexion sur le fait que très souvent, c'est pas très souvent, c'est qu'en tant que chercheur, si on est un bon chercheur, on est rigoureux. Et donc, par rapport à ce qu'on évoquait, les sectes, par exemple, alors, je ne suis pas experte là-dedans, mais il y a une notion de rigueur. Et le scientifique, par nature, va chercher à répondre à des questions. Et il ne va pas forcément trouver une réponse directe, mais il va pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Et c'est là où ça peut être pertinent et utile à ce moment-là de se poser des questions pour pouvoir y répondre. Et d'aider aussi, parce que tout à l'heure, on parlait de l'État. Via notamment les appels à projets. En tant que chercheur, on a aussi une utilité du citoyen. Par exemple, j'ai avec un collègue médecin, Monsieur Dervaux, Docteur Dervaux, nous avons monté une maison sport santé. Et donc, c'est aussi pour le bien du citoyen à ce moment-là.
Mmh. C'est vrai que dans la région, il y a le PSM aussi qui travaille sur la santé mentale. Je pense que vous êtes un peu en connexion.
Un peu, effectivement. Alors moi, je ne suis pas trop sur le côté mental, moi, je suis plutôt sur le côté moteur, ou en tout cas plus sur la notion de mobilité, d'autonomie fonctionnelle, et plus sur la récupération fonctionnelle, des choses comme ça. Mais effectivement, il y a la notion de motivation, la notion de participation psychologique et sociale va être utile à ce moment-là.
Alors, l'université a beaucoup d'étudiants, c'est le principe, et ces étudiants, pour pas mal, hein, s'intéressent au sport et parfois pratiquent le sport. D'ailleurs, on les y encourage sur une université. Est-ce que vous jugez que la proportion de personnes qui s'intéressent au sport et qui pratiquent est suffisante et que l'environnement permet de le faire dans de bonnes conditions pour la santé, pour le coup ?
Alors, par rapport aux installations, il est vrai qu'il y a de plus en plus d'installations qui se développent autour des campus universitaires pour, effectivement, amener les étudiants à pratiquer une activité physique de l'ordre plutôt du régulier. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, effectivement, parce que, on va dire, ça fait à peu près 10-15 ans que là, il y a vraiment un axe sur le bien-être à travers la pratique physique. Et notamment avec le développement de tout ce qui est activité physique adaptée. Et donc, parce que très souvent, je vais essayer d'être claire, très souvent, on a une image du sport à l'école qui n'a pas forcément été très agréable pour certaines personnes. Et donc, ils ont du mal à se remettre en activité parce qu'ils ont toujours cette image un peu négative de l'EPS, l'éducation physique et sportive à l'école. Et c'est un peu aussi notre rôle, nous, en tant qu'enseignants en sciences et techniques d'activité physique et sportive et des installations développées sur les campus, de montrer aux étudiants que, il y a le sport, certes, mais déjà, l'activité physique, c'est déjà bien.
Non, c'est vrai quand même que dans l'éducation nationale, hein, notamment, on ressent que le sport a beaucoup évolué en termes de pratiques pédagogiques et que l'aspect ludique c'est plutôt mis au cœur aussi des pratiques.
Oui, tout à fait. Là, en plus, tout récemment, il y a les écoles type primaire, collège, lycée, il y a la mise en place d'activités physiques quotidiennes, les fameuses APQ, où on demande aux enseignants de proposer 30 minutes d'activité physique aux élèves. Et alors ça, d'un point de vue scientifique, c'est prouvé que pratiquer une activité physique avant une activité cognitive, comme les mathématiques, le français, c'est super bon pour le cerveau parce que le cerveau est prêt à retenir en mémoire. Donc ça sollicite des zones corticales qui sont déjà activées via l'activité physique et donc qui sont déjà presque, on va vulgariser, ouvertes à l'apprentissage.
Et bien sûr, pour les activités sportives de plein air, il faut regarder la météo, voir s'il n'y a pas trop de pollution ce jour-là.
C'est vrai. En plus, j'ai un pur exemple. Je pratique de la voile au vignoble à Valenciennes et c'est juste à côté de l'autoroute. Et donc, en fonction du vent et des rafales de vent, en fonction de l'axe du vent, je ne veux pas forcément pratiquer. Mmh. Il est vrai.
Parfois, le indoor a ses avantages.
C'est vrai. Ouais, les deux. Moi, je pratique dans le indoor en natation et dans le outdoor au niveau de la voile, effectivement.
Voilà, donc c'est vrai que la région, d'une manière globale, est très attachée au sport. Hein. Je pense au football, au rugby, bien sûr, on en vient là. Une belle expérience quand même cette année, ça a été chouette, ce moment de rugby.
C'est magnifique. Moi, je suis vraiment... Je trouve les JO 2024 vont aussi peut-être probablement aider certaines personnes à se remettre en activité physique parce que le fait de voir à la télé des sportifs, on a toujours une envie après de tester des activités. Et donc, peut-être, effectivement, comme le rugby, là, j'ai vu récemment que la Fédération française de rugby comptait plus de licenciés que l'année dernière. Mais c'est logique, la Coupe du Monde aide toujours à... présenter les activités de manière un peu plus ludique. Et donc, voilà, ça participe.
Alors, pour ces Jeux Olympiques, il y a aussi le problème de la possibilité pour les gens handicapés de se déplacer, de voir les matchs. Alors, pour les sportifs, c'est peut-être relativement plus accompagné, mais pour le public handicapé, c'est compliqué. Il paraît qu'il y a très peu de stations de métro à Paris qui permettent justement de se déplacer correctement.
C'est un grand débat, le côté accessibilité ergonomique des aménagements. C'est avec des collègues, on travaille, alors pas forcément sur les aménagements généraux, mais quand on parle de mobilité, on parle aussi de la mobilité des personnes en situation de handicap. Et j'utilise bien le terme en situation parce que d'un point de vue ergonomique, l'environnement, s'il n'est pas adapté, il nous met en situation de handicap, même si nous ne sommes pas handicapés.
On a tous des handicaps.
On a tous des handicaps.
Bon, après, plus ou moins pénalisant.
D'où le « en situation », c'est qu'il y a le côté pérennité ou pas, mais à un moment donné, ça peut nous arriver qu'on soit en situation.
Donc, que ce soit les handicaps physiques ou les maladies qui ont des répercussions sur le physique et puis aussi la façon d'être, c'est parfois compliqué. Il y a des temps forts pour essayer d'amener au public la compréhension de ces problèmes et peut-être des solutions. Moi, je vois, par exemple, j'étais en 2008 en Chine pendant les JO, où il y a eu les JO de 2008 à Pékin, etc.
Oui.
Et là-bas, tous les jours à la télévision, il y avait au moins 4 ou 5 reportages sur les problèmes des personnes handicapées, donc des problèmes, des programmes pédagogiques et toute la période du Paralympique, quoi.
Oui,
donc,
effectivement, tout à fait.
C'était pas anecdotique, tout a été préparé en amont pour pouvoir présenter des films de, vulgarisation scientifique, médicale, etc., pour amener aussi les gens à être conscients de la possibilité de mieux intégrer les personnes en difficulté dans la société. Et je n'ai pas retrouvé ça les années précédentes, enfin, quand je dis les éditions d'après, dans les JO qui ont suivi, ce focus large et éclairant sur les problématiques dans les JO qui ont suivi. Alors, il paraît qu'à Paris, ça va le faire.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire attention parce qu'à Paris, il y a déjà des aménagements pour être allé ce week-end pour l'inauguration de la Fête de la Science. Il y a déjà des aménagements qui sont en train de se faire pour accueillir à la fois les sportifs, mais aussi le public en situation de handicap.
Donc là, ce que je voulais préciser, c'est par rapport justement à profiter de l'occasion des Paralympiques pour mieux connaître les problématiques, les maladies et leur impact sur la vie des gens. Et ça, je ne sais pas s'il y a une production. Est-ce que vous contribuez en tant que labo à de la documentation pratique, c'est-à-dire vidéo, etc.
Alors, il y a, avec l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et le service des sports, il y a carrément des journées paralympisme qui vont être réalisées en 2024 avec nos étudiants qui vont pouvoir aussi être ouverts au grand public pour effectivement montrer et présenter les différents types de classification aussi, parce qu'on parle souvent de classe en JO ou dans les championnats du monde paralympiques. On parle de catégorie et ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et donc, c'est aussi le but, c'est d'expliquer un peu qu'est-ce qui fait que tel ou tel sportif se retrouve dans telle catégorie par rapport à un autre.
Alors, dans la Fête de la Science, dans ces émissions, on met en avant des recherches et des équipes de chercheurs Il y a souvent, pour être reconnu, ce qu'on appelle les publications. Souvent, ce sont des publications de haut niveau et qui sont validées par des pairs. Enfin, je ne vous commande pas, vous connaissez ce domaine. On ne pourrait pas y intégrer aussi la vulgarisation scientifique pour amener, quand c'est intéressant, les éléments de recherche à disposition du public au-delà des faits de la science, etc.
Alors, il y a, par exemple, via la fête de la science, il y a The Conversation, qui font de plus en plus de vulgarisation en lien. Là, il y a au moins 4 articles qui vont sortir, rien que sur les Hauts-de-France, qui vont sortir sur l'activité physique et au grand public. Par exemple, là, j'ai participé à un article sur la pertinence de l'activité physique chez les personnes arthrosiques, avec comment motiver. Et donc, on a cherché en tant que... si je peux me permettre, désolé, en tant que chercheur scientifique, de vulgariser pour pouvoir ouvrir au grand public. Alors, c'est vrai que la production scientifique, qui est d'ordre plutôt publication scientifique, n'est pas forcément ouverte, en plus du fait que c'est très souvent en anglais, vu que c'est la langue scientifique utilisée le plus souvent. Mais il y a de plus en plus de journaux qui partent vers la vulgarisation en français.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, hein, pour les JO paralympiques, par exemple, des émissions de radio spécifiques, une production pour présenter différents aspects qui pourraient donc servir à la compréhension du public et avoir une base documentaire de gens qui témoignent, expliquent, présentent les problématiques?
Eh bien, sauf erreur de ma part, il va y avoir ça, effectivement. Il y a certaines, notamment, je sais que France Bleu vont faire quelques petits axes thématiques où ils vont interviewer des sportifs de haut niveau, des sportifs de club, donc du petit sportif à du grand sportif. Donc oui, je pense qu'il y a de la mise en place, effectivement, de ce type de format.
Mais là, je pensais plus aux Paralympiques. Vous voyez, des problématiques qu'on n'aborde pas forcément sur France Bleu.
Oui, alors ça, je ne sais pas du tout. C'est quelque chose que je vais aborder pour l'UPHF. Alors, l'idée, c'est de l'ouvrir au plus grand, mais ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir vulgariser tout ça, parce que c'est encore flou, beaucoup trop flou.
Bon, on se reverra peut-être.
Alors. Avec grand plaisir.
Voilà, donc s'il fallait conclure en donnant quelques points de repère au public qui veut encore voir des choses de la fête de la science, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller?
Bah, venez en Marc-Cabareil, c'est pas très loin de Lille. Et c'est à partir de jeudi jusqu'à samedi. Samedi, c'est le grand public. Jeudi, vendredi, c'est pour les scolaires. Mais moi, j'y serai. Donc, ça sera avec grand plaisir que je pourrai discuter avec vous.
Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au départ de la conversation, on peut dire ce qu'ils vont pouvoir voir à Marc-Cabareil.
Ah, donc plein d'ateliers ludiques avec la mise en activité, notamment par exemple regarder, observer le déplacement de nos centres de pression pour pouvoir s'équilibrer. Est-ce que nous sommes stables comme un objet posé sur une table? Telle est la question. Venez.
Donc, ce rendez-vous, il est dans quel lieu précis?
C'est au stade de Georges Niquet, à Marc-en-Barœul.
Voilà, ben, un rendez-vous. Sinon, il y a bien sûr le programme de la fête de la science en Hauts-de-France, par exemple.
En Hauts-de-France, effectivement.
Et là, il y a encore pas mal de choses intéressantes.
Oui.
Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi des liens vers un complément d'informations.
C'est ça. Parce que la fête de la science, c'est jusqu'au 16 octobre. Et là où c'est important, c'est que c'est gratuit. C'est ouvert au grand public, parents, enfants, curieux, venez. Venez nous découvrir, c'est aussi le but de pouvoir échanger avec les chercheurs et les acteurs finalement scientifiques. Et c'est un événement qui compte plus de 150 événements sur 8 villages scientifiques.
Bien, merci Laura Wallard pour cette mission réussie d'ambassadrice de la fête de la science en Hauts-de-France. On va renvoyer aussi les gens sur le site fêtedelascience.fr où là vous avez une branche, on va dire, les Hauts-de-France, fête la science.
Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir. Très bonne journée.
Au revoir.